Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron de Coopérative U, les magasins U. De très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord sur le carburant, évidemment. À l'aube ce matin, les Iraniens disent avoir frappé des bateaux américains. Les États-Unis avaient frappé plus tôt dans la nuit 5 pétroliers iraniens. Plus de 100 dollars le baril cette nuit, 2,12 € le litre d'essence, 2,29 € pour le gasoil. Ça, c'est la moyenne sur le territoire français. Jusqu'où ça va monter ?
Personne ne peut le dire, mais tant qu'il y aura des perturbations comme cette nuit encore, des bombardements, et qu'on n'aura pas retrouvé une chaîne logistique, parce qu'en fait, le carburant, c'est une chaîne logistique mondiale qui est complexe, qui est lourde. Et cette chaîne, elle est perturbée. Elle est perturbée comment ? Il y a des stations de raffinage qui ont été bombardées, donc il y a des capacités de raffinage qui sont moins fortes qu'avant. Il y a des routes maritimes qui sont perturbées parce que les bateaux sont attaqués. Donc, par exemple, l'assurance de ces bateaux coûte plus cher. Parfois, les pétroliers prennent des bateaux plus petits. Donc, toute la route est plus compliquée. Donc, tout est un peu plus cher. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de la sérénité, la paix, en fait, et de la tranquillité pour de la circulation normale, on aura des prix tendus.
Est-ce qu'il faut se préparer à ce que votre confrère, Michel-Édouard Leclerc, parle de 2,40 € le litre ? Il dit que ça peut arriver. Est-ce que vous vous dites, oui, on en est là ?
Je ne fais aucun pronostic, mais je constate seulement que c'est extrêmement tendu. Il n'y a pas du tout de sujet de pénurie. Par contre, faut rappeler que sur le gasoil, on est complètement dépendant des importations, complètement en France. On n'a pas, voilà, on importe tout. On ne raffine plus, on importe tout. Et quand vous importez dans la situation que je viens de décrire, avec des capacités de raffinage réduites, avec des bateaux plus petits qui coûtent plus cher, eh ben on est très dépendant.
Vous dites, il n'y a aucun problème de pénurie. Il n'y a pas de pénurie en France.
Il n'y a pas de pénurie. C'est plus difficile de le trouver, de l'acheminer. Mais on continue à en trouver et le flux est régulier, mais il est plus cher, malheureusement.
Mais à quel prix, évidemment ? Et puis, cette question de la spéculation malgré tout. Vous dites, oui, la chaîne concrète, et évidemment, on l'imagine et on le voit bien, et à nouveau, avec les frappes qui ont eu lieu cette nuit, tout est plus compliqué. Mais est-ce que ne s'ajoute pas à cela une question de spéculation ? Est-ce que certains, LFI parle de Total, comme de profiteurs de guerre, est-ce qu'il y a eu une forme de spéculation, de jeu là-dessus ?
C'est maintenant documenté. Certains de vos confrères ont fait des enquêtes très fouillées. Au niveau du raffinage, les marges ont fortement augmenté, x3, x4. Donc il y a
les marges. C'est pas seulement les coûts, c'est les marges.
Tout à fait. C'est les coûts ont augmenté. On vient
ça,
de le décrire.
Mais là, les marges, ça veut dire qu'ils en ont profité en quelque sorte
davantage que pendant la période précédente. Et si je pense, il y a un maillon qui peut peut-être aujourd'hui faire un effort, mais il est à l'étranger, ce maillon essentiellement. Donc il n'est pas français. Et donc là, c'est difficile de demander revoyez vos marges de raffinage. Mais ce maillon-là, clairement, c'est x3, x4. Donc,
ce maillon-là, c'est le raffinage.
C'est le raffinage sur lequel
il faut porter les efforts.
Voilà, l'assurance, elle coûte plus cher, c'est normal. Les gens veulent protéger leur outil de travail. Les routes sont plus longues, tu pourras rien y faire. Mais peut-être sur le raffinage, c'est possible.
Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous donnez aussi un signal au gouvernement qui a décidé à nouveau de convoquer les distributeurs à Bercy. Depuis le début de ces hausses du carburant, depuis le début de la guerre en Iran, ils ont tendance à vous faire porter le chapeau. Ils ont eu au début ce réflexe de dire c'est votre faute, vous les distributeurs. Oui. Vous n'avez cessé de dire non, on a baissé nos marges. D'abord, est-ce que vos marges aujourd'hui sont extrêmement réduites sur l'essence ? Et deux, qu'est-ce que vous allez leur dire sur les marges ?
On en a déjà parlé ici, Apolline de Malherbe.
Ça n'a pas changé ?
À plusieurs reprises et ça n'a pas changé. C'est un produit d'appel, il est très bataillé. Les gens, avec ces prix d'aujourd'hui, regardent au quotidien leur station et vont à la moins chère. Si vous n'êtes pas dans les prix les moins chers, les clients fuient et c'est pas l'intérêt du commerçant. Donc nos marges sont plus réduites que jamais au quotidien. Au début de la crise, c'était au printemps, effectivement, on était tous distributeurs montrés du doigt en disant « Vous êtes un des maillons qui profite. » Après, enquête de Bercy, puisqu'il y a eu un rapport dont vous avez parlé. La porte-parole du gouvernement, Madame Maude Bréjon, a dit « On a étudié le sujet, il n'y a pas de marge abusive dans la grande distribution. » C'est toujours le cas actuellement. Et je dis heureusement qu'elle l'a dit, parce que c'est la vérité. Nous, on le disait.
Vous ne vouliez pas être les boucs émissaires.
Mais non, mais on l'est à chaque fois, à chaque crise du carburant, tout de suite. Le vendeur final est montré du doigt. Nous ne sommes qu'acheteurs et revendeurs. Notre marge est minime parce qu'on n'a pas le choix.
Mais alors pourquoi Bercy vous convoque à nouveau ? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore vous demander ?
Mais pour suivre la situation.
Ou alors c'est peut-être pour s'agiter et montrer qu'on s'agite ?
Non, mais pour suivre la situation, il y a énormément de choses à dire. Où en est l'approvisionnement ? Quelles sont les pistes d'amélioration ? Quelles sont ? Voilà, il y a toujours.
Comment est-ce que l'État peut vous aider ?
Alors. Ben là, c'est extrêmement difficile. Je pense c'est pas nous qu'il faut aider actuellement. C'est les Français qui sont en grande difficulté par rapport à ce prix du carburant. La situation est très tendue pour énormément de Français, et c'est ces Français-là qu'il faut aider. C'est pas
ça veut
nous.
Dire qu'il faut prolonger sans hésitation. On a senti une hésitation la semaine dernière. Ils ont pris le temps avant de vraiment confirmer que les aides allaient être reconduites. Il ne faut pas d'hésitation. Il faut dire on continue à les aider quoi jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'essence ne redescende.
Mais là, ça remonte à un niveau vraiment très fort. C'est des niveaux historiques. Là, on frôle le record sur le gasoil et on est au record sur l'essence. On est au record. Donc, l'impact au quotidien pour tous les Français, notamment dans nos campagnes, qui amènent les enfants à l'école, qui vont faire les courses, qui vont au sport, au travail avec la voiture, mais c'est considérable. J'entendais un chiffre ce matin, 5 millions de Français passent un salaire complet par an sur le carburant. C'est énorme.
C'est énorme. Est-ce qu'il faut plafonner les prix ?
Plafonner les prix, moi je pense que d'abord faut aller au bout des aides, peut-être les améliorer et accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Et là, Dieu sait que beaucoup en auront besoin. Plafonner les prix, les caisses étant vides actuellement, ça coûterait encore très très cher. Et ça, c'est quelque chose que moi je peux pas préconiser aujourd'hui.
Vous avez entendu votre confrère Michel-Edouard Leclerc qui dit le plafonnement sera inéluctable. Du côté de LFI, on veut plafonner le prix et notamment le prix de l'essence à 1,70 €.
Bon, ça, je pense vraiment que le gouvernement va continuer sa politique d'aide ciblée. Et après, le plafonnement, encore une fois, les caisses de l'État sont vides. Peut-on encore aggraver le déficit de manière massive en touchant tout le monde ? Vous voyez, le sujet, quand vous faites ça...
On va revenir à la question des salaires, parce que pour vous, tout est lié. Et vous dites que c'est sur les salaires, à la fin, que l'on fait peser le fait de ne pas avoir fait d'économie ailleurs. Dominique Schellcher, est-ce que Total vous fait une concurrence déloyale ?
C'est une forme de concurrence déloyale, je l'ai déjà dit. Ils maîtrisent toute la chaîne, de l'extraction au raffinage à la vente. Donc, ils maîtrisent leur prix, ce que nous ne pouvons pas faire. Et en plafonnant, ça nous fait une concurrence déloyale. Je vous donne un chiffre ce matin. Depuis le début de l'année, chez Coopérative U, on fait 7% de volume de carburant en moins par rapport à l'année dernière.
Vous avez baissé de 7% vos ventes de carburant.
C'est inédit, c'est jamais vu. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a cette concurrence déloyale. Voilà, il y a le changement de comportement des Français qui s'adapte, moins de déplacements, des départs en vacances moins loin cet été. On va une fois de moins chez la belle-mère le dimanche, mais clairement ils le disent comme ça. Et puis voilà, c'est ces éléments-là.
7% de moins, c'est considérable.
C'est considérable, c'est du jamais vu, et donc en fait l'impact est fort et le changement de comportement est profond en ce moment.
C'est un changement de comportement du consommateur. Nous entrons dans un monde de rareté. Voilà l'expression que vous avez prononcée il y a quelques jours. Ça rappelle aussi la phrase d'Emmanuel Macron au moment de la guerre en Ukraine qui disait c'est la fin de l'abondance également, une forme de fin de mondialisation où on pouvait tout trouver partout, tout le temps. Dominique Schellcher, quand vous dites il y a 7% de moins sur le carburant, est-ce qu'il y a aussi une baisse de la consommation sur le reste, une baisse du volume des achats sur le reste des produits ?
Le moral n'est pas très fort en cette rentrée. Mmh. Moi, je trouve les Français extrêmement fatigués après toutes les canicules. Les gens ne sont pas reposés. Ils ne sont pas sereins par rapport à la situation économique. Et ils sont préoccupés par la suite, la campagne électorale que vous commentez tous les jours. Et surtout, à quoi vais-je être mangé, notamment en termes de fiscalité. Donc, tout ça les tend. Et donc, ils arbitrent, ils sont prudents. Mais je rappelle un chiffre de base d'abord. un tiers des Français sont à découvert à la fin du mois. Un tiers des Français. C'est énorme. Vous rajoutez à cela les gens qui sont à l'euro près, la proportion est énorme. Et quand les prix du carburant atteignent des sommets comme actuellement, c'est très difficile pour beaucoup, beaucoup de Français. Et je ne sais pas si on en prend exactement toute la mesure.
Ça se manifeste comment ? Est-ce qu'il y a moins d'achats à la caisse ? Est-ce que le caddie est moins grand ?
Le caddie se concentre sur l'alimentaire. Tout le non-alimentaire est très, très arbitré. Très arbitré. On se concentre sur l'essentiel, c'est se nourrir et quand même bien manger, etc. Voilà l'essentiel. Et ça dure depuis des mois. Et ce qui était au départ, je pense, une adaptation, devient un changement en profondeur. Vous savez, quand vous avez abandonné, pendant le début de la guerre en Ukraine, des grandes marques parce que la marque distributeur était moins chère, ben maintenant vous avez pris l'habitude de prendre...
Et vous ne retournez pas forcément vers la marque que vous avez quittée. Dominique Schellcher, il y a un tiraillement aujourd'hui entre la question du pouvoir d'achat et vous vous êtes fait tous les chantres de la lutte contre l'inflation, de la baisse des prix et notamment sur l'alimentaire. Quand je dis vous tous, c'est vous, Michel-Édouard Leclerc, le patron des mousquetaires. Et à l'inverse, vous avez les agriculteurs qui aujourd'hui disent ça suffit, il faut accepter une forme d'inflation sur l'alimentaire. On ne peut pas continuer à payer ce que l'on mange si peu cher. On ne peut pas continuer à faire de l'alimentaire la variable d'ajustement parce que ça se fait au mépris de l'agriculteur et que l'agriculture va mourir. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Les agriculteurs doivent vivre dignement de leur métier, hein, bien sûr. Je vous donne un exemple de ce qu'on a décidé cette semaine. Il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, on avait signé des contrats avec des producteurs de tomates pour une opération de tomates grappes à prix coûtant cette semaine. D'accord ? C'était convenu à un certain prix il y a plusieurs semaines, avant un peu les canicules et la baisse de rendement à la production. Quelques jours, on a reconsidéré cette opération. Les contrats étaient signés, ça voulait dire quoi ? Que les producteurs étaient contraints de nous livrer. Mais s'ils nous avaient livré au prix signé il y a deux mois, ils auraient perdu de l'argent. On a dit non, on annule l'opération dans tous nos magasins.
Vous avez rompu le contrat pour pouvoir les payer davantage.
Pour pouvoir les payer davantage, et on ne fait pas l'opération. Et dans tous nos magasins, il y a une affiche qui dit « On s'excuse, on n'a pas la tomate grappe prévue, mais on paye au juste prix l'agriculteur. » C'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir, et on est engagé là-dedans.
Est-ce qu'il faut carrément aller plus loin, c'est-à-dire se dire désormais, je recevais le patron de la FNSEA la semaine dernière, qui disait « Quand une brique de lait est vendue moins de 1 euro, ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que techniquement, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que l'agriculteur, eh bien, au départ du maillon de la chaîne, il n'est pas payé à sa juste valeur.
Mais le lait...
Est-ce qu'il faut s'engager à ce qu'il n'y ait plus jamais de briques de lait, enfin le temps que ça redescende, plus de briques de lait à moins de 1 euro dans vos magasins ?
L'essentiel de nos ventes chez U, je vous le dis, j'ai vérifié parce que je pensais que vous me poseriez la question.
Le lait, c'est essentiel, c'est vraiment c'est la base.
L'essentiel de nos ventes se situe au minimum à 1 euro, 99 centimes, 1 euro le litre. Notamment toute la marque U qui fait l'objet, vous savez, de ce qu'on appelle les contrats tripartites où justement il y a nous, une coopérative laitière et un embouteilleur. Et là, on est tous gagnants, on est tous d'accord, c'est 1 euro. Il y a une exception, il y a un lait premier, ce qu'on appelle, vous savez, le premier prix pour certains clients. C'est pas du tout le plus gros de nos ventes, mais c'est une offre qui existe parce qu'elle est nécessaire pour certains clients.
Et là, il est combien ?
Et là, on est aux alentours de 85, 89 centimes.
Qui rogne ? Est-ce que c'est l'agriculteur qui rogne ou est-ce que c'est vous qui rogne ?
C'est aussi un contrat avec certains producteurs, on est d'accord aussi, mais peut-être c'est ce prix-là qu'il faudra à terme encore revoir. Il n'a cessé d'augmenter ces dernières années, c'est plus le plus gros des ventes, et je pense que sur le lait, beaucoup de gens ont compris qu'il fallait payer un juste prix.
Dominique Schellcher, faut-il accepter d'augmenter la TVA, donc in fine le prix d'un certain nombre de produits pour pouvoir augmenter les salaires? C'est comme ça que vous le posez. Cette question, elle se pose d'ailleurs depuis le début de cette campagne présidentielle. Un vrai débat sur une TVA dite sociale, c'est-à-dire préférer augmenter la TVA, mais pouvoir baisser les charges sur les salaires.
Pour vous répondre, je préfère partir du tout haut. Quel est pour moi, la mère de toutes les batailles dans cette campagne? C'est redonner du pouvoir d'achat aux gens, redonner du salaire aux gens, augmenter les salaires. L'employeur aujourd'hui est étouffé. Le salaire est dans un étau. Je rappelle ce chiffre. Il y a 50 ans, les gens touchaient 70% de leur super brut, donc toute charge comprise. Aujourd'hui, c'est encore 52%. On a trop fait porter la protection sociale en général sur le salaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les travailleurs aujourd'hui, essentiellement les travailleurs, qui prennent en charge le coût de la protection sociale. Il faut diversifier cette couverture-là pour libérer le travail, permettre aux employeurs d'augmenter les salaires et redonner de l'air.
Vous redonnez régulièrement ce chiffre, vous dites si moi je veux augmenter l'un de mes collaborateurs pour qu'il puisse disposer réellement de 100 euros supplémentaires à la fin du mois, alors l'entreprise doit supporter une augmentation du coût du travail d'environ 483 euros. C'est-à-dire 483 euros pour vous, pour qu'à la fin il puisse avoir 100 euros dans sa poche.
Exactement. Je fais une précision quand même, parce que certains m'ont fait quelques commentaires là-dessus. Là, c'est pour un salarié autour du SMIC célibataire qui touche aussi la prime d'activité. Si vous augmentez un salarié aujourd'hui de 100 euros au niveau du SMIC, il perd sa prime d'activité. Mais là, le salarié va pas être d'accord. Donc, pour compenser l'ensemble de son revenu et qu'il ait vraiment 100 euros de plus à la fin, c'est effectivement 483 euros, tout compris.
Donc, augmenter la TVA, quitte à ce que les prix augmente dans les rayons, parce qu'aujourd'hui, de 20%, elle passerait à 24%.
Oui, mais Apolline de Malherbe, il n'y a pas que augmenter la TVA. La première chose qu'il faut dire, faut aussi peut-être reconsidérer le volume des dépenses. Est-ce que déjà on peut réduire cette somme avant de la transférer? Première chose. Deuxième chose, on ne toucherait pas à la TVA des produits de première nécessité, la TVA la plus basse. Et après, moi, la seule solution qu'on voit, c'est effectivement un transfert d'une partie de ces charges sur la TVA la plus élevée, qui est en France une des plus basses d'Europe. Il faut savoir que cette TVA, c'est pas ce que je veux faire du tout, ce qu'on voudrait faire. Elle est jusqu'à 27% dans certains pays européens. Nous, on est à 20%. Mais il y a peut-être une marge de 2 points, par exemple.
Vous êtes assez François Hollande. Vous avez vu les propositions de François Hollande. Je sais bien que vous ne voulez pas forcément rentrer à proprement parler dans la campagne, mais François Hollande, une de ses propositions phares ces jours-ci, c'est de faire passer la TVA à 24%, mais de la faire passer à zéro, en revanche, sur les produits de première nécessité.
Oui. Il faut absolument protéger les produits de première nécessité, mais il faut débloquer cet étau qui enserre tout le monde. C'est une des attentes prioritaires des Français. Et voilà, c'est mis en débat, que les spécialistes, les économistes l'évaluent, mais il faut, j'espère, je vous l'assure, il faut que l'élection de l'année prochaine conduise un président qui vraiment trouve une solution à ce sujet-là. C'est impératif, sinon ça va être très difficile.
Vous êtes inquiet de l'année qui s'ouvre ?
Je suis très inquiet. Tous les ingrédients actuellement qu'on a en face des yeux, c'est un ralentissement quand même de l'économie française. La consommation moteur de la croissance, elle est quand même pas très forte. Elle est atone parce qu'il y a cet attentisme. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, d'autres qui économisent un peu parce qu'ils ont peur de la suite. La configuration actuellement, vous savez, mais toutes les campagnes politiques, les gens se mettent un peu en précaution
et attendent la suite.
Et c'est jamais bon pour l'économie française. Et après, quand on entend plein de propositions, les premières, parce que maintenant ce qui nous intéresse nous, c'est de rentrer dans le détail de toutes ces propositions, on n'est pas rassuré.
Vous n'êtes pas rassuré.
À ce stade. Donc vive le débat, vive la confrontation des candidats, vive vos interviews dans les prochains temps.
Vous allez les recevoir, les auditionner, les rencontrer ?
Absolument, ça on le fait au niveau de notre fédération. On a décidé de recevoir l'ensemble des candidats des partis représentés à l'Assemblée nationale. On en a déjà reçu, on va continuer à le faire. Là, le but c'est quoi ? C'est de partager nos préoccupations comme on le fait ce matin et de pousser certaines idées.
Un mot sur la question de la transparence salariale dans les entreprises. Là, on parlait de la question de l'augmentation des salaires. Cette transparence salariale, ça sera présenté en Conseil des ministres demain. C'est une transposition d'une directive européenne, obliger les entreprises à être transparentes sur leur rémunération. Alors, pas dire qui gagne quoi dans quel bureau, mais donner la moyenne à poste égal qui gagne quoi. Et notamment, la différence entre les hommes et les femmes. Vous, dans vos magasins, est-ce que vous pratiquez cette transparence ? Est-ce que vous redoutez cette transparence ? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher ? Vous en êtes où ?
On n'a rien à cacher. Déjà, ça, c'est sûr qu'on n'a rien à cacher. Maintenant, ça concerne dans un premier temps les très grandes entreprises. Donc, mes PME, les magasins, c'est des PME, ne sont pas concernés dans un premier temps. Maintenant, tout ce qui contribue, je vais vous dire, particulièrement à l'égalité entre les hommes et les femmes, où nos chiffres sont plutôt bons dans notre métier, il faut avancer et il faut le faire.
Il faut le faire et il faut le faire de manière zélée, c'est-à-dire que certains chefs d'entreprise, notamment via le MEDEF, ont reproché au gouvernement d'aller trop loin dans cette demande. Vous, pour le coup, c'est pas le cas.
Alors après, voilà, faut donner un cadre raisonnable qui soit compatible avec ce que les entreprises peuvent faire, trouver le juste équilibre. Parfois, le défaut de la France, c'est par rapport à ce que demande l'Europe, d'en faire trop effectivement. Donc faut pas en faire trop non plus. Faut faire ce qu'il faut pour que l'égalité particulièrement avance.
Vous êtes à la frontière avec l'Allemagne. Votre propre magasin, oui, à vous, il est en Alsace. Comment vous avez réagi aux élections en Allemagne? Est-ce que vous redoutez la période qui s'ouvre?
C'est une période très surprenante avec des déclarations qu'on entend effectivement dans ce pays, effectivement que je connais bien, très surprenante et inquiétante. Maintenant, est-ce un cas isolé? Est-ce le début d'un mouvement? C'est toute la question. Mais vous savez, regardons les sondages aujourd'hui que vous commentez tous les jours. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Sous 50 ans, aujourd'hui, les gens mettent LFI contre Rassemblement National en France. Et c'est un peu au-dessus de 50 ans que, notamment, Édouard Philippe intervient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler...
Les plus jeunes votent davantage dans les extrêmes.
Voilà, mais il faut parler à ces jeunes. Il faut parler de leurs préoccupations, parler de leur avenir. Et aujourd'hui, certains le font. Ils ont les faveurs des sondages. Mais tout le monde doit s'adresser à eux avant tout. Et quand j'entends tous les jours, c'est ma vie est faite. J'ai tellement peur pour mes enfants et des jeunes préoccupés de la suite. Un moment où le monde est bouleversé.
Il faut
apporter des réponses.
Une rupture aussi de génération. Merci Dominique Schelcher d'avoir répondu à mes questions ce matin. PDG de coopérative U, des magasins U.